que je ne prêche pas, j'objecte. Mais pour moi, je vous le dis tout net, ce texte est irrecevable du premier au dernier verset. Et je me pose la question, comment le rédacteur de ce texte a-t-il pu écrire une infamie pareille? Comment les conciles qui se sont succédés, les copistes, les moines qui ont réécrit la Bible, ont-ils pu ne pas faire l'impasse d'un texte pareil? Ça aurait quand même été pudique de ne pas en parler. Parce que comment décrire une telle abomination? Au nom de la vérité historique, elle a bon dos, avec une certaine naïveté, je ne leur ferai pas ce procès, par fanfaronnade, pourquoi pas, pour une politique de la terreur, j'en sais rien, mais en tout cas, ce texte est cousu de mauvaise foi. Car tout, pour moi, est scandaleux. Tout d'abord, les deux frères, Siméon et Lévi, en preux défenseurs de l'honneur de leur sœur. Et pourtant, cette sœur, là, dans ta traduction, il est mis la Viola, dans la traduction, version seconde, c'est mis la Déshonora. Donc, cet amour ne tarde pas, après cet épisode, à être sincère, ce qui est assez rare tout de même. Ces gens, ce fils du roi, a sincèrement aimé la fille de Jacob. Et ces deux frères prennent leur vision, leur version de ce qui s'est passé. Ça s'est passé à l'époque, je dois dire que c'est assez banal, ça se passe encore à notre époque finalement, de faire comme disaient nos parents, Pâques avant les rameaux. Et ils se sont servis de ce prétexte pour se livrer à un massacre et à un pillage dans la plus pure tradition de toutes les sauvageries de l'époque. Et hélas, encore aujourd'hui. Mais où est le code? Œil pour œil, dent pour dent. Où est la proportionnalité? Pour avoir déshonoré leur sœur, ils vont se livrer à un massacre, à une abomination, à un pillage. Mais où est ce code auquel, plus ou moins, tout le monde se référait et, en tout cas, qui faisait partie véritablement des lois qui avaient été données à Dieu, par Dieu, à Moïse, à l'époque? L'honneur de leur sœur, écoutez, il a bon dos. Ils ignorent délibérément que leur malheureux beau-frère, qui est devenu, parce qu'il l'a demandé en mariage, hein, avait des sentiments nobles et purs à l'endroit de leur sœur. Et eux font de la circoncision, qui est quand même le signe distinctif d'un ordre divin qui devait séparer Israël des autres peuples, le peuple élu, ils en font une ruse de guerre pour s'emparer à bon compte des biens de leurs voisins. Et écoutez, le texte dit, les fils de Jacob se jetèrent sur les morts. Sur les morts, il n'y a même pas le respect d'un adversaire supposé qui est mort. Et ils emmenèrent comme butin toute leur récolte, leur richesse, les femmes et les enfants. Mais c'est un scandale. Et Jacob, quand il apprend ça, mais il aurait dû désavouer ses fils, il aurait dû les destituer. Je ne veux pas vous voir pendant un certain temps. Jacob, il pleurniche. Oui, vous me rendez odieux aux habitants du pays, le pauvre. Voilà qu'on va le plaindre peut-être. Et la réponse des deux frangins, elle est à la mesure de leur démesure. Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Mais pour ça, ils se sont livrés à tout ce qu'ils ont fait. Elle avait conclu un mariage d'amour, fait assez rare pour être mentionné. Si ces deux voyous de frères ajoutent l'infamie au crime en traitant leur sœur de prostituée, c'est eux qui en portent la responsabilité. Mais cela m'amène à une question beaucoup plus grave et qui, moi, me taraude. Ce Dieu dont j'attends à chaque ligne, au mieux une condamnation, au pire une critique. Mais est-il le même que le Dieu du Christ, dont chaque geste, chaque parole, chaque action durant tout son ministère et qui l'a conduit à la croix est l'antithèse de ce Dieu complaisant de l'Ancien Testament? J'attendais des patriarches élus parmi le peuple élu, qu'ils se distinguent de leurs voisins par une éthique à la mesure de leur élection. La lecture de Genèse 34 nous démontre, hélas, que le patriarche Jacob ne prend pas le chemin. Je t'écoute.
Merci Jean-Luc. Pasteur sur le grill. Alors, c'est Jean-Luc qui m'a proposé ce chapitre. C'est Jean-Luc qui est venu me voir il y a quelques temps, il y a de ça même 6 mois, pour me proposer cet exercice, de prendre un texte un peu ardu de la Bible, que lui soit un peu le commentateur critique, et qu'ensuite j'essaye d'expliquer, de donner du sens. Et je vais m'arrêter sur ce premier mot avant d'aller plus loin. Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi pour se défendre. Et il a d'autres spécialistes bien plus pointus que moi par rapport à la parole, par rapport à la Bible. Et ce que je vous proposais, c'est de donner du sens à ce texte. Et je me réjouis de faire cet exercice. J'ai tout de suite bien aimé sa proposition, parce que du coup, en me posant ces questions, en me posant un peu ces objections sur le texte, je suis au moins sûr que je réponds à des questions qu'au moins une personne se pose. Parce qu'en effet, on n'est pas tout sûr que tout le monde se pose les mêmes questions que Jean-Luc. Ce texte est irrecevable. Alors permets-moi déjà d'objecter totalement à ta première objection. Ce n'est pas le texte qui est irrecevable, c'est le récit. Ce n'est pas les lignes qui se succèdent dans la Bible qui sont irrecevables, mais c'est ce que la Bible raconte, qu'on puisse utiliser la circoncision, le signe de l'alliance comme une ruse militaire, ça, c'est irrecevable. Qu'on puisse, à cause de la facilité d'un prince à vouloir obtenir tout ce qu'il veut, qu'on puisse passer toute une ville au fil de l'épée, ça, c'est irrecevable. Le problème, c'est pas le rédacteur. Le problème, c'est pas celui qui l'a écrit, cette histoire, mais c'est que cette histoire ait pu avoir lieu. C'est ça qui est absolument irrecevable. Et je dirais même plus, il est important de noter ces histoires. Il est important de les noter, de ne pas faire l'oubli. Parce que comme on le verra, ce récit est aussi un peu le reflet des hommes et de la conduite des hommes. Et je crois que malheureusement, la cruauté, la colère et la vengeance de l'être humain ne s'est pas arrêtée à ce récit, mais qu'on en voit encore jour après jour les effets. Donc voilà. Mais du coup, ça nous pose quand même une question. Comment est-ce que j'aborde la Bible? C'est quoi la Bible? La Bible est un récit. La Bible est plutôt la collection de 66 livres. Et ça nous pose la question, cette histoire de l'interprétation. Comment interpréter la Bible, comment recevoir la Bible lorsque je la lis. Et on a plusieurs types de textes. On a des textes qui sont prophétiques, on a des textes poétiques, on a, comme je l'ai dit, des récits, on a des codes de loi. Donc on a toute une série de textes différents dans la Bible. Et le texte que nous lisons ce matin, Genèse 34, c'est un récit. Et face à un récit, petite pointe, on fait de l'interprétation, on l'approche d'un point de vue narratif. Et je vais le dire d'emblée, ce n'est pas parce que je raconte une histoire, ce n'est pas parce que j'écris une histoire que je la cautionne. Ce n'est pas parce que la Bible relate des événements qu'elle l'approuve. Bien au contraire. Et pour être assez clair par rapport à notre texte, ce qui nous choque là, c'est l'absence de voix narrative. En gros, quand vous avez un récit, une histoire, il y a les protagonistes, il y a les personnages qui interagissent, qui vont d'un lieu à l'autre, on a les descriptions des lieux, on a les dialogues, on a les actions qui se succèdent. Et généralement, il y a ce qu'on appelle la voix narrative. C'est-à-dire l'auteur qui fait des petits commentaires à gauche, à droite. Ah là, Jacob a agi comme ça, parce que blablabla, blablabla. Qui explique au lecteur, qu'il permet au lecteur d'entrer dans l'histoire. Et ce qui nous choque ici, c'est qu'il n'y a pas de voix narrative qui condamne l'acte. Il y a un silence. Il y a un silence qui est total. Le narrateur, celui qui écrit, ne dit pas « cette action est atroce ». Cette action ne va pas. Et ce silence nous choque parce que nous, on veut dénoncer absolument cette histoire. Mais s'il y a cette absence de condamnation, il y a aussi cette absence de Dieu dans le texte. Pas une seule fois, Dieu est mentionné et pas une seule fois, Dieu intervient ou parle. Vous savez, dans la Bible, la voix narrative, pour revenir à ce concept, vous verrez, c'est intéressant de lire les histoires, mais généralement, c'est Dieu qui est cette voix narrative, où Dieu fait un commentaire sur une situation pour conduire le lecteur. Ici, dans Genèse 34, Dieu n'apparaît absolument pas. Et ça nous dérange. On aime bien faire des commentaires à gauche, à droite. On aime bien être guidé. En quelque sorte, on est un peu déstabilisé parce que du coup, l'auteur, celui qui rédige le texte, ne nous aide pas. On ne sait pas trop est-ce que je dois condamner, est-ce que je dois essayer quand même de trouver des raisons pour approuver le texte. On est un peu désécurisé. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Et donc, qu'en pense Dieu de cette histoire? C'est quand même la question que tout le monde se pose. Alors, il y a ce silence, il y a le silence divin, mais je peux vous le dire avec pleine conviction, Dieu rejette totalement, non seulement l'acte de Sichem de violer Dina, mais également la réaction, la surréaction de des frères de Dina, donc de Siméon et Lévi. Et pour preuve, on peut le voir, même si Jacob, sa réaction est un peu folle, un peu faible, Genèse 49 nous apprend quand même que Siméon et Lévi, au moment de la bénédiction des fils de Jacob, il est dit, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des armes de violence, que je n'entre pas dans leur complot et que je ne m'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur caprice, ils ont coupé des jarrets de bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Donc, on voit bien qu'à la fin du récit de la Genèse, à cause de ce récit, à cause de cette histoire, Lévi et Siméon ne reçoivent pas de territoire en Israël. Donc, on peut souffler. Non seulement Jacob réprouve, mais, et bien plus, Dieu également réprouve cette histoire. Après, je pense que... Tu as parlé un peu de... Peut-être pour revenir un peu sur ce récit. Tous les fils de Jacob, lorsqu'ils naissent, on explique leur prénom. Ce que vous avez remarqué un peu plus tôt. Dina, quand elle est née, Dina, la seule fille, ben on n'explique pas son prénom. On n'explique pas son prénom, mais son prénom vient du terme Din, qui veut dire justice. Le nom de Dina, ça veut dire rendre justice ou exercer la justice. Et je pense que là, le lien entre le prénom et le récit est absolument flagrant, d'autant plus que c'est le seul récit, mis à part sa naissance, où Dina est nommée. Ce récit est un récit d'injustice. Et ce récit est là justement pour nous choquer, justement pour nous montrer toute la furie et toute la cruauté que l'être humain est capable de faire par justice. Et c'est justement pas de la justice dans notre texte, mais c'est justement un manque de justice. Et je vais me permettre de le dire, pas une seule fois la parole de Dina n'est entendue. La victime n'est pas entendue. Et ça, c'est un propre de notre justice. La victime, lorsque c'est possible, est entendue. Et on explique le point de vue de la victime. Tu dis, oh, Sichem a un amour sincère pour Dina. Mais on n'en sait rien. C'est ce que Sichem dit. Et tu parlais du terme violer. Alors là, les spécialistes ne sont pas d'accord. Effectivement, il y en a certains qui adoucissent un peu le terme pour dire que c'est juste coucher avec, faire en quelque sorte un adultère, coucher avant le mariage. Mais il semblerait quand même, dans plusieurs récits, ce mot qui est employé veut quand même une connotation de violence. Et donc, on voit se profiler Dina, une jeune fille, en victime. Et en fait... Ton commentaire de dire l'amour de Sichem, l'amour que Sichem a, l'amour sincère qu'il a pour Dina, est scandaleux. Ce propos est scandaleux parce que personne ne se pose la question, mais elle veut quoi, Dina? Est-ce que Sichem se pose cette question? Non, c'est un prince, il la trouve jolie, il se dit, oui, hop, c'est parti, je la prends pour moi. Et ce propos qui excuse le bourreau et qui un peu bêtifie ou simplifie la victime est absolument atroce. Il y a d'autres commentateurs qui disent dans ce texte, c'est la faute de Dina, elle n'avait qu'à pas se promener en ville. Non, il y en a quand même des, ils sont fortiches quoi. Alors, ne vous inquiétez pas tous les commentaires. Mais Dina... On ne sait absolument rien d'elle. On ne sait pas ce qu'elle veut, on ne sait pas ce qu'elle dit. Ici, c'est totalement un objet. Et la plupart des textes disent que c'est un réel viol, en fait, qui s'est passé par rapport au texte, par rapport au mot qui est utilisé. Et donc, ce qu'on remarque dans ce texte, c'est que non seulement Dina, la victime, ce manque de justice, elle n'est pas entendue, mais bien plus encore, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. Et quand vous lisez l'histoire de Jacob, vous pouvez voir tout au long du récit, ce qui structure Jacob, c'est une famille dysfonctionnelle. Il commence sa vie par se bagarrer avec son frère, il lui vole son droit d'aînesse, il part en exil parce qu'il a peur. Là, il marie la mauvaise femme, voilà. Donc, il va travailler un peu plus longtemps pour marier sa sœur. Et là, on voit ce conflit qui apparaît entre Léa et Rachel. Ensuite, Jacob est un peu, il a un petit chouchou à la fin de l'histoire, on voit, c'est Joseph. On lui offre un joli habit à Joseph. Puis Joseph, quand il va travailler au champ, alors en retard, bien sûr, il ne faudrait pas trop qu'il travaille, il arrive au champ avec sa jolie petite veste de couleur. Et ses frères, on saura ce qu'ils font, et ils se disent, le texte dit, ils virent Joseph de loin parce qu'il portait son habit spécial. Donc ils l'ont vu arriver de loin avec son petit habit, je suis le chouchou. Ils se sont dit, ah. Donc ils vont le vendre, ils vont d'abord l'attaquer, ils vont le vendre en Égypte, enfin des marchands qui va être vendu en Égypte. Toute l'histoire de Jacob, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. Et je me permets de le dire pour faire souffler les familles aussi un peu. Dans la Bible, il n'y a pas une seule famille fonctionnelle. Lorsqu'on lit les histoires de la Bible, elles sont toutes dysfonctionnelles. Alors, Jacob, la famille de Jacob, elle obtient quand même une petite palme. Il est quand même fort. Et ce qui caractérise Jacob dans son rôle de père, c'est sa passivité. Tout au long du récit, il est passif. Il laisse les événements se faire. Et surtout dans ce texte, c'est criant la passivité de Jacob. Le texte nous dit « Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. » Jacob apprend que sa fille s'est fait enlever et violer. Et lui, il garde le silence. À aucun moment, Jacob ne se soucie de l'état de santé de sa fille. Comment va sa fille? Lorsque le roi et le fils viennent voir Jacob pour lui proposer le mariage, c'est pas Jacob qui répond, mais c'est ses fils, Lévi et Siméon, qui répondent au roi. Je ne sais pas si vous remarquez comme c'est fort. C'est un peu comme si à chaque fois que vous veniez vers le pasteur pour lui poser une question, c'était ma femme à côté qui répondait. Vous voyez? Ça fait quand même un peu bizarre. Vous dites, attendez, je suis venu poser une question au pasteur ou à la femme du pasteur? Et surtout, Jacob n'exprime aucun remords face aux actes de vengeance de ses fils, mais uniquement de la peur. Il a peur que les peuples autour se réunissent pour l'attaquer. Et donc, je vais conclure là-dessus, parce que généralement, quand on ne prépare pas ou qu'il y a des questions qui sont posées comme ça, on peut un peu s'étaler un peu longuement. Mon but ici n'est pas de m'étaler longuement. Moi, je retiens deux choses que ce texte nous enseigne. Il y a deux choses qu'on peut retenir. Et tout d'abord, c'est comment appréhender la Bible. Et ce n'est pas parce qu'une histoire est relatée dans la Bible qu'elle est approuvée par Dieu et donc qu'on doit l'approuver. Et bien plus encore, c'est pas parce que Jacob est le peuple élu, représente le peuple élu d'Israël, c'est pas parce qu'il est élu par Dieu qu'il commet jamais des erreurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir pour nous. C'est pas parce que nous sommes aimés et que nous aimons Dieu que nous ne commettons jamais des erreurs. Dans la Bible, et c'est peut-être pour ça que, et c'est ce qui donne du corps, mais aussi la véracité à la Bible, c'est qu'il n'y a pas de héros, mis à part Jésus. Il n'y a pas de héros, de personne qui a toujours raison, qui fait toujours le bien et qui est toujours gentil. Et ça, c'est notre problème. C'est que nous, quand on lit cette histoire, on a un peu cette lunette de dire, il y a d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Les méchants sont toujours méchants et ils font que le mal. Et de l'autre, il y a les gentils qui font que le bien et qui sont toujours gentils. Et en fait, les trames historiques de ce genre d'histoire, c'est ce qu'on appelle Disney. Je ne sais pas si vous voyez. Dans Disney, c'est comme ça. Quand on regarde les histoires, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, ça, c'est en fait, c'est des histoires pour enfants, vous voyez, où le gentil est toujours gentil et le méchant, il est toujours méchant. Et quand on grandit un peu, quand on devient un peu adulte, ben on réalise que dans la vraie vie, dans la réalité, les choses ne sont pas comme ça. Et il y a des méchants qui font des fois des choses bien, et il y a des gentils des fois qui font des choses mal. Et je pense que ça, on doit le prendre lorsqu'on lit la Bible. On doit le prendre, non pas pour nous en inspirer et pour reproduire ce récit, mais bien au contraire, pour nous rendre attentifs à ce qui est dans ce récit. Et ce qui est dans ce récit, c'est une histoire de justice. Et je vais poser deux éléments, parce que sinon je serai trop long. Trois. Premièrement, pour qu'il y ait justice, il faut que la victime soit entendue. Lorsqu'on n'entend pas la victime, lorsqu'on ne l'écoute pas, ça ne s'appelle pas de la justice. Deuxièmement, la vengeance est toujours excessive. Lorsque je fais une justice ou une auto-justice, lorsque je me rends justice à moi-même par vengeance, forcément, je vais être disproportionnel. Et c'est bien pour ça que notre système de justice ne permet pas la vengeance. Parce qu'on est tous là à s'offusquer devant ce texte, « Oh, c'est quand même méchant, les frères de Lévi. » Mais c'est bien parce que ce n'est pas notre sœur qui s'est fait violer. Et je pense que si ça avait été notre sœur, on aurait une approche un peu différente de ce texte. On se dirait, bon, c'était peut-être un peu exagéré, mais ils l'ont quand même un peu cherché. Et troisièmement, je vais m'arrêter là-dessus, la passivité de Jacob laisse le champ libre à leur vengeance. Et ça, ça peut nous titiller lorsque je ne m'insurge pas face à l'injustice, lorsque je suis passif face aux fautes que les autres commettent, je laisse le champ libre à la vengeance. La passivité, la passivité du jugement laisse la porte libre à la vengeance. Et je pense que c'est bien ça que ce texte est en train de nous mettre en avant. Alors c'est plus de la théologie un peu politique, dirons-nous, mais il met en avant cette vengeance qui est disproportionnelle, ce silence de la victime et cette passivité de Jacob qui aurait dû prendre les devants et qui aurait dû, lui, décider de la sanction à appliquer. On lit notamment en Deutéronome 22, « Si un homme rencontre une jeune fille vierge, c'est un texte de loi, non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celui-ci. De plus, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. » En gros, c'est une pension à vie plus 50 pièces d'argent. Donc on voit là, en Deutéronome, quelle est la sanction pour un viol. La sanction qu'ont apporté Siméon et Lévi est totalement disproportionnelle. Et donc on voit ce manque de justice, on voit ce texte, et ça doit nous alarmer, nous, dans notre vie. Alors non pas pour qu'on se victimise ou qu'on fasse trop garde, mais prenons garde quand même à notre propre justice, à la façon dont, dans mes relations, dans mes discours, dans ma façon d'être, la manière dont je rends justice. Parce que généralement, c'est disproportionnel. Et voilà, donc pour conclure, prenons garde à la justice que nous exerçons autour de nous. prenons garde à comment est-ce que je condamne et que je juge les comportements, même les fautes que les gens commettent contre nous. Soyons au contraire, et ça je crois que le Nouveau Testament nous l'apprend, soyons au contraire pleins de miséricorde et de compassion. Sachons pardonner, sachons nous pardonner les uns aux autres de la même façon dont Christ nous a pardonnés, de la même façon dont Christ s'est offert pour nous.